Ce soir, donc, nous recevons François Ewald. François Ewald est né en 1946. Il est docteur d'État en sciences politiques. Dans son parcours, il faut noter qu'il a été, c'est l'ancien assistant de Michel Foucault au Collège de France. Il est actuellement conseiller pour la recherche à la Fédération française des sociétés d'assurance et professeur titulaire de la chaire d'assurance au Conservatoire national des arts et métiers. Parmi ses spécialités, il est spécialiste de philosophie politique et juridique et il est surtout spécialiste d'assurance. Il a reçu la médaille d'argent du CNRS et il est le fondateur de l'association pour le Centre Michel Foucault. Parmi ses écrits, outre le fait qu'il est de nombreuses fois publié dans de nombreux journaux, notamment Le Monde, il est fondateur et membre du comité éditorial de la revue RISC et il a écrit les ouvrages suivants. Tout d'abord, l'ouvrage qu'il a fait connaître qui est L'État-providence, qui est paru en 1986 chez Grasset et qui a été réédité en 1996. Il a fait paraître Le problème français des accidents thérapeutiques qui est paru en 1992 à la documentation française et qui est à l'origine un rapport qui lui avait été commandé par Bernard Kouchner, à l'époque ministre de la Santé, et qui portait sur l'indemnisation des accidents médicaux. Il a fait paraître chez Flammarion en 1989 Naissance du Code civil et je rajoute aussi L'accident nous attend au coin de la rue qui est paru en 1981 à la documentation française. Voilà. François Ewald, je vous laisse maintenant la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes avec le public. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Je me dois de faire une petite correction dans cette biographie. Je n'ai malheureusement pas eu la médaille d'argent du CNRS, mais seulement une médaille de bronze. Le titre de cette conférence, vous avez pu le noter, a été choisi par un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck. C'est lui qui est l'auteur, en 1986, d'un livre qui s'appelle « Risikogesellschaft », « La société du risque ». Qu'est-ce qu'il entend par société du risque ? Société du risque, ça ne signifie pas une société qui se caractériserait par la croissance des risques. La société du risque, ce n'est pas la société des risques technologiques majeurs. Ce n'est pas une société où les risques sont plus dangereux, où les risques sont plus importants. Non, ce qui caractérise la société du risque, c'est que c'est une société qui se réfléchit, c'est une société qui pense ses problèmes comme des risques. C'est que la notion de risque devient une notion qui ne désigne plus exactement ou qui ne désigne plus seulement des événements, mais que c'est une société qui pense tout événement comme un risque. C'est une société qui fait de cette catégorie une catégorie générale pour se penser, pour se réfléchir, pour se problématiser. C'est-à-dire, vous le sentez bien, c'est une société qui fait du risque non pas l'objet, non pas seulement l'objet d'une protection, mais c'est une société qui fait du risque un principe général d'évaluation. Ce qui caractérise la société du risque, c'est que le risque est la catégorie qui est supposée définir les valeurs. Ce n'est pas une société où on est plus préoccupé par les menaces objectives qui peuvent l'affecter, mais c'est une société qui fait du risque le principe de ses valeurs. C'est une société qui pose le risque comme valeur des valeurs. Et c'est très paradoxal, c'est plein de difficultés, mais c'est aussi incontestable de voir comment cette notion de risque, dans les années récentes, a pris une extension qu'elle n'avait absolument pas auparavant. Quelques mots sur l'histoire du mot. Le mot risque, il y a des discussions, est attesté pour la première fois en français en 1578. Donc c'est un mot relativement récent. C'est un mot qui a 4 siècles en français. En fait, c'est un mot qui existe depuis plus longtemps en latin, mais seulement dans le latin de la fin du Moyen Âge, ou plus exactement dans l'italien de la fin du Moyen Âge, où il apparaît sous la forme du mot risco. C'est un néologisme dont on s'interroge sur l'origine. Et là, il y a 2 thèses ou 3 thèses qui se disputent. Une première thèse dit que risque vient du mot latin risicum, qui signifie ce qui coupe, c'est-à-dire écueil, et ceci fait référence à l'assurance maritime, qui précisément naît à cette époque. L'écueil, c'est précisément ce que redoute l'armateur qui lance un bateau commercé au loin. Mais un linguiste français, qui s'appelle Guiraud, conteste ce qu'il appelle ce roman nautique et dit que risque ne vient pas du tout d'écueil, mais ça vient du latin rixicare, qui signifie se quereller. Et que de se quereller, ça a pris la sens de danger à partir du danger dans un combat. Il y en a 3e famille qui pense que le mot, comme souvent les mots de cette époque, vient des Arabes. Reprenons les 2 sens, les 2 premiers sens, ils sont intéressants car le mot risque au sens d'écueil renvoie sans doute à l'idée de danger, au sens d'un danger objectif, au sens d'une menace objective, et se réfère certainement à l'assurance maritime. Mais le mot risque au sens, si on accepte la version de M. Guiraud, on a une autre origine aujourd'hui très importante de la notion de risque, qui est la théorie des jeux, qui est le risque militaire. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? C'est bien prendre des risques. Dans un cas, vous avez la notion de risque comme risque objectif, menace objective. Et dans l'autre cas, vous avez plutôt l'idée de risque que l'on prend ou auquel on s'expose dans une certaine stratégie. Vous avez là les 2 grandes figures, les 2 grands modèles, finalement, dans lesquels la notion de risque est prise. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la notion est donc relativement récente, qu'elle est restée cantonnée à l'assurance pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle, qu'à la fin du XIXe siècle, elle a pris un statut en droit à travers la question des accidents du travail et la notion de risque professionnel, qui a été très vite étendue à la notion de risques sociaux, qui sont les risques que couvre la sécurité sociale. Mais domaine d'assurance, domaine juridique, tout ça, ça n'en fait pas un vocabulaire très commun. Et je crois qu'il faut attendre les années 70 pour que le mot risque devienne cette espèce de mot valise qu'il est devenu. Et les années 70, ce sont les années de l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, la prolifération de la notion de risque est sans doute liée au développement de l'écologie. Donc, 1986, où Ulrich Beck écrit cette Société du risque, en 1986, on vous l'a rappelé tout à l'heure, j'écrivais moi-même un livre qui s'appelle, que l'éditeur avait appelé l'État-providence, et dans lequel j'avais, moi, pointé l'idée que nos sociétés étaient plutôt des sociétés assurantielles, mais précisément, à travers cette idée de société assurantielle, il y avait l'idée que le risque était devenu, depuis la fin du XIXe siècle, à travers ces techniques, à travers ces technologies, une technologie politique. Et que ce qui caractérise la politique moderne, ce qui sans doute, j'irais jusqu'à dire, a garanti la stabilité de la République à partir de la fin du XIXe siècle, c'est qu'elle a fait des techniques du risque, des techniques politiques. Et ces techniques du risque, c'est par exemple les assurances sociales, ou encore les techniques de la planification. Enfin, les techniques de, généralement, les techniques de l'État-providence. Alors, ce que je voudrais peut-être voir avec vous, c'est quelques-unes des dimensions ou quelques-uns des problèmes, quelques-uns des enjeux d'une société qui, à la fois, fait du risque ou de ses technologies des technologies politiques, et une société qui fait du risque le principe de ses valeurs, le principe de ses évaluations. Et je crois qu'on peut, en balayant les choses assez vite, on peut peut-être distinguer trois domaines où ces enjeux ou ces problèmes d'une société du risque se posent, se formulent, s'exposent. C'est par exemple, c'est d'abord le domaine de la morale. C'est ensuite le domaine de la protection, le domaine de la solidarité, et puis c'est enfin les domaines de la responsabilité à travers notre expérience moderne des risques technologiques ou des risques qui sont associés à la notion de précaution. Alors commençons par la morale. Commençons par le risque comme régime de valeurs. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ça paraîtra peut-être étrange au premier abord, mais j'espère arriver à vous en convaincre, c'est que le risque est dans une société du risque au principe de la valeur de nos valeurs. C'est ce qui fait que nos valeurs ont une valeur. Ceci se mesure par rapport au risque. Oh. Je ne crois pas que si ça caractérise notre société, ça ne la caractérise pas seulement. Vous vous souvenez sans doute du film de James Dean qui s'appelle La fureur de vivre. Vous vous souvenez que dans ce film, il y a une scène superbe dans laquelle les deux, camarades, ennemis, rivaux, se lancent un défi, celui qui sautera le dernier de la voiture, qui va à toute allure vers le précipice. C'est d'ailleurs une figure qui est très récurrente dans le cinéma américain, sans doute dans la culture américaine, que ces figures du duel et de l'enjeu vital dans un duel. Cet épisode est, je crois, à la fois une figure éminente et dérisoire du risque. Éminente parce que précisément c'est à travers le risque que chacun des rivaux va définir sa valeur, son identité. Ce qu'il est, c'est ce qu'il est capable de risquer. Et s'il, tant qu'il ne risque pas, il n'est rien. Et s'il risque, et s'il gagne dans l'affrontement, il est tout. Ou plus exactement, il acquiert à ce moment-là une position qui est une position de maîtrise. J'emploie exprès le mot de maîtrise parce que vous avez reconnu que dans l'épisode de James Dean, ses voitures, sa falaise et son obscurité, vous avez la copie hollywoodienne de la fameuse dialectique du maître et de l'esclave hegelienne. Chez Hegel déjà, c'est à travers le risque de sa vie que chacun définit ses valeurs et à travers ses valeurs montre la valeur qu'elles ont pour lui. Elles n'ont de valeur que parce qu'il est capable de risquer pour elles. Une valeur pour laquelle je ne risquerai rien n'a sans doute pas grande valeur. Le monde des valeurs se révèle grâce à la capacité qu'ont les hommes de se risquer pour elles. Et dans cette figure hegelienne ou hollywoodienne, on constate donc que l'humanité de l'homme passe par le risque, et plus précisément le risque de sa vie. Dans une perspective hegelienne, je crois qu'il faudrait dire que l'animal est privé du risque. Ou vous pouvez dire inversement que ne pas être capable d'affronter le risque, c'est vivre comme une bête. Je vous cite cet exemple dans la philosophie occidentale, mais ça vous montre bien comment le risque est lié aux valeurs et est bien posé au principe de la valeur des valeurs. Mais, on découvre en même temps que tout ne mérite pas ou que tout risque ne mérite pas d'être pris. Si on valorise le courage, on condamne la témérité. Et si le risque est au principe des valeurs, ce n'est pas lui-même une valeur absolue. C'est une valeur relative. Le risque ne vaut que lorsqu'il sert la vie. Mais le risque fanatique, la prise de risque pour elle-même, le fanatisme du risque, est condamné parce que précisément, il met en cause la vie. De telle sorte que on voit donc à la fois le risque est un principe de valorisation, mais c'est un principe de valorisation uniquement dans la mesure où il pense sa limite. Il faut risquer, mais il faut risquer d'une façon raisonnée. L'expérience du risque, de ce point de vue, est une expérience limite. Il y a un moment où on peut aller trop loin. Alors c'est précisément, c'est un débat qu'on trouve aujourd'hui développé dans un certain nombre d'ouvrages. Il y en a un qui est superbe, d'un alpiniste américain qui raconte l'expédition, enfin une des expéditions à l'Everest, je crois, de 1996, où il y a eu 12 morts. Et il explique précisément, il montre comment on franchit précisément ce franchissement de la limite et comment ce franchissement est mortel. C'est un livre absolument superbe que je vous recommande et comment il y a une espèce d'enivrement du risque qui est mortel. Bien, maintenant, je crois qu'on peut faire introduire, toujours dans cet aspect moral, je crois que, vous voyez, il faut distinguer deux sens du mot risque selon qu'on l'emploie comme un verbe ou selon qu'on l'emploie comme un substantif. Risque n'a pas le même sens au sens de « je suis confronté à des risques » ou « je risque quelque chose ». Et c'est sous sa forme verbale « risquer quelque chose » que le risque a décrit effectivement une morale. Eh bien, qu'est-ce qui caractérise la pensée occidentale? C'est sans doute qu'elle pose que l'homme est tel qu'il ne peut pas ne pas risquer, qu'il ne peut pas se constituer, qu'il ne peut pas se définir sans le risque. Et dans l'expérience du risque, il y a l'expérience de sa propre identité. Il n'y a pas d'acte humain au sens propre qui n'implique risque. La plupart de nos actions ne sont pas des actes. C'est rare qu'on commette un acte. On commet un acte quand on se met en jeu, lorsqu'il y a une dimension d'affrontement, lorsqu'il y a une dimension de risque précisément. Eh bien, c'est dans ce risque, dans cet acte où on se risque, que l'on découvre sa vérité, que l'on découvre sa propre identité. Bon, il y a un philosophe français qui a fait de ça, comment dire, un véritable gruyère. Vous savez, tous ces personnages sont à la recherche de l'acte, de ce risque qui va finalement faire que le pour-soi va rejoindre l'en-soi. C'est Sartre. Mais si on peut constater que cette dimension nécessaire du risque se trouve à l'origine, enfin se trouve formulée comme essentielle et comme constitutive de la situation de l'homme dans la philosophie grecque et plus exactement dans la philosophie d'Aristote. La morale aristotélicienne est, même si le mot risque ne figure pas chez Aristote, la morale aristotélicienne est une morale d'un être voué au risque. Et précisément, cette relation au risque est pour Aristote ce qui fait la différence entre l'homme et Dieu. Le monde des dieux ne connaît pas le risque, parce que le monde, l'univers, des lois mathématiques ne connaît pas l'incertitude. L'incertitude, c'est le lot que les hommes ont que les dieux ont confié aux hommes. Et quelle est la tâche des hommes sur Terre? C'est dans cette relation à l'incertitude, dans cette relation à un monde indéterminé, de l'accomplir. La tâche que les dieux ont donnée aux hommes, c'est d'accomplir un monde imparfait, et cette imperfection se manifeste par l'incertitude, l'indétermination, la contingence. Et la vertu de l'homme qui prend en charge cette mission, qui est la mission humaine, la vertu de cet homme, c'est la prudence. L'homme prudent, c'est celui qui sait décider de l'incertain. C'est celui qui sait accomplir l'incertitude de telle manière que ce qui va être posé corresponde bien à la destination même du monde. Vous voyez bien que dans la prudence, c'est l'expression même de la responsabilité, ou plus exactement, la prudence exprime la responsabilité face à ce monde incertain, face à ce monde qu'il faut accomplir. Et pour accomplir pour pouvoir lever l'incertitude, pour la lever de façon prudente, Aristote pose un certain nombre d'éléments nécessaires qui ne sont pas de l'ordre du savoir, qui ne sont jamais de l'ordre d'un savoir de type mathématique, dont Aristote pose expressément qu'il ne relève pas de la science, mais qui relève d'un autre type de connaissance, précisément celle du prudent, et qui passe, par exemple, par la figure fondamentale de la délibération. Mais c'est une délibération qui n'est pas de l'ordre de la science. Déjà chez Aristote, vous trouvez formulé ce sur quoi on est obsédé aujourd'hui autour de la précaution, c'est comment prendre une décision qui ne serait pas appuyée par un, dispositif scientifique rigoureux. Et ce qu'Aristote fait en même temps apparaître à travers cette idée que face au risque, que face à l'incertitude, il y a besoin d'un savoir de type particulier, qui d'ailleurs caractérise, qui est difficilement généralisable, car la prudence, ce n'est pas une vertu qu'on partage, c'est une vertu qui distingue certains hommes parmi d'autres. Aristote fait en même temps apparaître, c'est que entre ce qu'on peut vouloir d'un point de vue rationnel et ce que l'on doit choisir d'un point de vue raisonnable, il y a une distance. Il y a une raison propre de l'incertitude qui ne doit pas être subordonnée à des fins abstraites. Il y a donc l'idée que dans l'action, la science est limitée, que pour l'action, la science est limitée. Je prends cette figure aristotélicienne, vous voyez bien ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que l'homme n'est pas moral s'il n'est pas dans cette disposition à affronter l'incertitude. C'est là qu'il s'accomplit, en même temps qu'il accomplit le monde. Eh bien, je vais faire un raccourci. Je vais passer 25 siècles. Vous trouverez une description assez comparable de la situation de l'homme sur Terre dans les ouvrages d'un de ceux qui va me succéder ici, Alain Ehrenberg. Dans le culte de la performance, ou dans l'individu incertain, précisément ce que décrit Alain Ehrenberg, c'est la situation d'un homme qui, dit-il, je ne suis pas sûr que cette description soit nécessairement sociologiquement rigoureuse, mais c'est le sentiment qu'il a, qu'il exprime, c'est que cet homme, aujourd'hui, il est confronté à l'incertitude. Jusqu'alors, il était enserré par des normes, il était enserré par des règles, il était enserré par des interdits, ou par des institutions. Ces institutions, depuis la fin, dans les dernières années du XXe siècle, se sont défaites, détruites, dispersées. Et il est donc confronté à l'incertitude. Eh bien, l'homme aristotélicien, dans l'incertitude, découvrait sa morale. L'homme incertain, dans la figure d'Alain Ehrenberg, découvre le psychiatre. Il n'est plus en relation avec soi, il est en relation avec le Prozac.
il est en relation avec sa dépression. Voyez, le progrès peut-être. Chez les Grecs, l'incertitude moralise. Chez nous, ça nous déprime. Chez les Grecs, l'incertitude vous fait rencontrer le moraliste. Chez nous, ça fait rencontrer le médecin. Voilà une première dimension qui fait apparaître comment peut-être pour nous, et il est vrai que pour Alain Ehrenberg, il n'y a pas nécessairement contradiction avec Aristote, dans la mesure où je rappelle que pour Aristote, la vertu de prudence caractérise des individus qui se distinguent des autres, alors que pour Ehrenberg, lui, il parle des populations, des individus qui, précisément, sont incapables de se distinguer des autres. Alors, donc, vous voyez, quand on ne se distingue pas des autres, on risque la dépression. Bien, voilà pour l'aspect, quelques indications de cette dimension morale. Et aujourd'hui, vous avez une incitation, où on ressent une incitation à nouveau refonder la morale sur le risque. On oppose les riscophiles aux riscophobes, on oppose ceux qui aiment le risque à ceux qui aiment la rente, on oppose les entrepreneurs aux fonctionnaires. Aujourd'hui, il y a toute une idée que finalement, le développement des systèmes de protection sont démoralisants parce qu'ils ne permettent plus ce rapport au risque et qu'il serait sain de les réintroduire. Je vais venir maintenant à deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est le risque et l'association. Le risque et la solidarité. Le risque comme expérience, non pas morale, mais comme expérience sociale. Le risque comme expérience sociale, c'est évidemment l'assurance. Mais dans le domaine de l'assurance, la première chose à constater, c'est que, comme dans le domaine moral, le risque était principe de valeur, dans le domaine de l'assurance, le risque est aussi principe de valeur. L'évaluation d'un risque en assurance, le prix d'un risque, c'est la mesure de sa valeur. Et précisément, le mécanisme de l'assurance, l'art de l'assureur, consiste à savoir quel est le prix du risque. Quel est le prix qui est susceptible de faire du risque l'objet d'un contrat, l'objet d'un échange, l'objet d'un commerce. J'ajoute ce que vous êtes en train de penser, l'objet d'un gain et non pas d'une perte. Alors, comment fixer le prix du risque? Il y a deux théories pour expliquer comment on donne un prix au risque. Car cette idée de donner un prix au risque est une idée très singulière. Car ce qui caractérise le risque, fondamentalement, c'est qu'il n'existe pas. Le risque est toujours virtuel. Le risque est toujours pour demain. Le risque n'est jamais là. Lorsqu'il est là, c'est qu'il est réalisé en assurance. Ça s'appelle un sinistre. Mais ce n'est plus un risque. Lorsqu'il est là, le risque, c'est une règle légale fondamentale, le risque n'est pas assurable. Le risque n'est plus assurable. Le risque, il est toujours demain, pour demain. Le risque est toujours inactuel, virtuel. Et précisément, le mécanisme de l'assurance, ça consiste à rendre actuel ce qui est virtuel, à rendre actuel ce qui est futur. Lorsque vous avez signé votre contrat d'assurance auto, vous avez donné, vous avez rendu présent un événement possible, un événement probable, un événement qui n'existe pas. Pour vous, bien sûr, au même moment où vous signez votre contrat, sur de nombreuses routes de France, non plus des risques, mais des sinistres. Alors, comment expliquer que l'on puisse fixer un prix sur lequel on va s'entendre à quelque chose qui n'existe pas? Eh bien, il y a deux théories. La première théorie consiste à dire que le prix du risque, c'est le prix que je suis prêt à payer pour m'en débarrasser. Il y a une anecdote célèbre, c'est celle du président de la firme de whisky Cutisark, que tout le monde connaît, une bouteille de whisky avec une étiquette verte et un bateau jaune. Le président de Cutisark avait, à des fins de publicité, imaginé proposer je ne sais combien de milliers de livres à celui qui découvrirait le monstre du Loch Ness. Quand il fait cette proposition, il pense qu'il ne court pas trop de risques. Mais voilà qu'il a des cauchemars et qu'il se dit, si jamais il y en a un qui le découvre, je vais être dans une situation très difficile. Et son aversion fait qu'il va chercher à transférer le risque. Il va chercher un assureur. Il l'a trouvé. Les Lloyd's de Londres ont pris le risque. Il n'y a aucune statistique. Il n'y a aucune mutualité. Il y a bien un transfert de risque. Il y a bien un contrat. Il y a bien un prix. Ce prix mesure l'aversion au risque de M. Cutisark et aussi l'appréciation du risque par les Lloyd's. Voilà, ceci suffit pour fixer le prix du risque. Il suffit donc d'avoir, pour donner le prix du risque, c'est un échange entre deux personnes dont l'une aura plus d'aversion au risque que l'autre. Eh bien, la différence entre les aversions au risque donnera le prix du risque. Alors, bien sûr, ceci peut apparaître un petit peu spéculatif, mais c'est pourtant sur cette base-là que s'est développée, depuis le XVIIIe siècle, une grande partie de la théorie de l'assurance. C'est-à-dire sur l'idée que l'évaluation d'un risque, elle n'est pas liée à son objectivité, mais elle est fondamentalement liée à ce que le risque représente pour quelqu'un. Ce qu'il représente pour quelqu'un, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui est lié à sa fonction d'utilité. Alors, la deuxième idée, deuxième pratique, deuxième technique pour donner le prix d'un risque, et vous la connaissez bien, c'est par la statistique et la probabilité qui permet de définir sur une population le prix, avec sa récurrence, sa régularité, le prix du risque, et à le diviser sur, à le répartir sur l'ensemble de la population. On parle à ce moment-là d'un prix équitable. Mais on peut montrer que dans la pratique, ces deux calculs se rejoignent dans la mesure où sans doute l'acte d'achat d'assurance est lié à l'aversion au risque, mais ce qui fait que l'assureur, lui, a moins d'aversion au risque que l'assuré, c'est qu'il connaît la réalité statistique du risque. Et donc, on voit très bien que dans l'échange, les deux théories s'articulent. Bien. Cet acte d'assurance change complètement notre rapport au risque. Car, à partir du moment où le risque est appréciable, où le risque prend la dimension d'une prime, c'est-à-dire d'une fraction infime de son coût possible, eh bien, ne pas s'assurer devient une faute. Car cela veut dire qu'alors qu'on avait la possibilité de faire face à l'événement et de le réduire, en fait, on va le laisser se produire et produire toutes ces conséquences néfastes qui sont telles qu'elles sont susceptibles d'avoir un coût social très élevé, demander l'intervention de l'État, l'assistance, etc. Le fait de l'assurance, le fait pour l'assurance d'inverser le temps, va faire que l'assurance devient ou risque de devenir une obligation morale. Et ceci est, comme on va le voir tout à l'heure, je crois, relativement important dans les problèmes d'aujourd'hui. Alors, dans la pratique aujourd'hui, ces problèmes d'assurance, ces problèmes de solidarité se manifestent essentiellement autour de la gestion des risques sociaux. Et les gros problèmes de la société du risque aujourd'hui, ce sont les problèmes qui sont liés à la transformation des risques sociaux. Alors, je crois qu'on peut décrire deux grandes transformations. La première, c'est que les risques sociaux deviennent des risques de l'existence. Et la deuxième, c'est que les risques sociaux eux-mêmes se transforment. Les risques sociaux traditionnels se transforment. Qu'est-ce que ça veut dire, passage d'un risque social à un risque de l'existence? Ceci est lié au fait que les risques sociaux, tels qu'ils ont été pensés, en particulier en France, sont des risques du salarié, du salariat. Le principe du salariat, c'est que j'achète ma subordination contre ma protection. Et ma protection, c'est ma protection contre toutes les causes de perte de revenus. Et ces causes de perte de revenus, lorsque je travaille, c'est l'accident, c'est la maladie, c'est la retraite, essentiellement. Vous avez là les principaux risques sociaux. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons une espèce de redistribution des risques qui est liée à la fois aux technologies, qui est liée à la mondialisation, et qui fait que le régime du salariat est sans doute en train de s'effriter et que, au lieu qu'on puisse rentrer dans un emploi, ça soit gagner sa protection, on pense qu'aujourd'hui, gagner un emploi, c'est n'être absolument pas sûr de pouvoir le garder. C'est plutôt être sûr d'avoir à changer d'emploi dans sa vie, de ne pas faire carrière au même endroit, de telle sorte que le risque même de l'emploi est un risque qui est reporté sur l'employé. Ou plus exactement, comme on dit aujourd'hui, l'employable. Dans la notion d'employabilité, il y a l'expression d'un transfert du risque sur la personne qui cherche à s'employer. Et donc le risque passe, il n'est plus porté par le contrat de travail, mais il va être porté par l'individu lui-même, pour pouvoir rentrer dans un rapport de travail. Et à ce moment-là, vous voyez bien que la protection se déplace complètement. La protection ne peut plus venir essentiellement des institutions de sécurité sociale. La protection, elle va venir de ce qui vous rend employable. Ce qui vous rend employable, c'est l'éducation, c'est la formation. De telle sorte que dans l'État-providence du 21e siècle, on peut penser que le principal instrument de protection, ça sera peut-être moins la sécurité sociale que l'éducation nationale. Ça, c'est une grande, c'est un premier grand déplacement. Et maintenant, si vous regardez les risques sociaux traditionnels, si vous prenez la maladie, si vous prenez la retraite, vous pouvez constater que la nature de ces risques, entre la manière dont ils ont été posés à la fin de la guerre de 40 et la manière dont ils existent aujourd'hui, il y a un écart considérable. La retraite, en 1945, on n'avait pas fixé en 45, ça datait d'avant, l'âge de la retraite à 65 ans. Eh bien, une personne qui naît en 1945 n'a pas une espérance de vie moyenne d'atteindre 65 ans. Si vous atteignez 65 ans, c'est que vous avez de la chance. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas sûr à la naissance que vous avez, en tout cas qu'en moyenne, vous atteindrez cet âge-là. La retraite, c'est un risque aléatoire. Ce n'est pas une garantie pour tous, c'est un risque aléatoire pour certains qui est couvert par tous, parce qu'on ne sait pas qui aura la chance de dépasser 65 ans. Aujourd'hui, où l'espérance de vie moyenne est de, je ne sais pas combien, 73, 74 ans pour les hommes et 84 pour les femmes, il est clair que si vous mettez la retraite à 60 ans, il s'agit de garantir certainement, il n'y a plus d'aléas, il s'agit de garantir certainement 15 ans, 25 ans de vie à quelqu'un. Le risque a complètement changé et pourtant, il est toujours pris en charge par les mêmes institutions. Et si vous prenez la maladie, on peut faire un raisonnement comparable. La maladie en 1945... Vous savez que dans le risque maladie, vous couvrez énormément de choses. Vous couvrez l'accès aux soins, ce qui est devenu pour nous l'essentiel, mais vous couvrez aussi l'arrêt de maladie, la perte de revenus qui est liée au fait que vous êtes malade. Et bien, en 1945, ce qu'on indemnise par la sécurité sociale, par l'assurance maladie, c'est des arrêts de travail. Ce n'est pas des soins. Ce n'est qu'en 1958 que dans le budget de l'assurance maladie, la part de dépenses de soins va prendre le pas sur la part de remboursement des arrêts de travail. Le remboursement des arrêts de travail, on a bien affaire à un risque aléatoire. Je tombe malade et je perds mon revenu. C'est un risque aléatoire. Mais lorsque vous êtes dans un dispositif, lorsque ce même dispositif sert à couvrir l'accès aux soins ou à tous les soins les meilleurs possibles, dans une logique qui est une logique de remboursement, c'est-à-dire où chacun, le malade, comme le médecin, a la maîtrise du risque, a la maîtrise de dire « oui, le risque est réalisé », eh bien, on est dans un système qui a du mal à fonctionner autrement qu'en fonctionnant, en quelque sorte, à une dépense de plus en plus important. À nouveau ici, le risque s'est complètement transformé et l'institution qui le prend en charge n'est sans doute pas la plus adéquate pour pouvoir le traiter. Si maintenant vous envisagez ce qu'on nous explique de l'avenir de la médecine, d'une médecine prédictive, d'une médecine de gestion du capital santé, eh bien vous voyez qu'ici, la problématique d'un remboursement n'a plus beaucoup de sens, car le dispositif de protection devra être un dispositif d'aide vis-à-vis de chacun à la gestion de sa santé. Alors, j'en viens maintenant au problème, à mon troisième point, à mon point de la responsabilité. Alors, je crois que c'est ici, c'est ce qui suscite le plus de discussions, de débats, enfin encore les questions de sécurité sociale en suscitent pas mal aujourd'hui. Nous avons vécu entre 1800, si vous voulez, ou même avant, et aujourd'hui, un renversement complet dans les rapports entre risque et responsabilité. En 1800, le risque ne désigne que ce que les juristes appellent cas fortuit, c'est-à-dire ce qui exclut toute responsabilité humaine. Le cas fortuit, ça vient de l'extérieur de l'homme. Bien aujourd'hui, donc le risque en 1800, ça exclut la responsabilité. Là où il y a risque, il n'y a pas de responsabilité. Et d'ailleurs, les juristes pensent toujours ça dans leur tête. La responsabilité est liée à la faute, mais pas au risque. Eh bien aujourd'hui, renversement complet, là où il y a risque, il y a responsabilité. Aujourd'hui, le risque renvoie toujours à une responsabilité. Pensez risque, vous pensez qu'il y a un responsable. Et pourquoi ? Parce que les risques auxquels nous sommes sensibles, les risques que nous percevons, les risques auxquels nous sommes sensibles, renvoient tous à des activités humaines, renvoient tous à des décisions humaines. De telle sorte qu'à travers le risque, j'évalue la décision de prendre un risque. Cette décision de faire courir un risque. Cette décision de mettre en danger à travers une prise de risque. Et ceci dans un contexte qui est marqué, je crois, par les éléments suivants. D'abord, un élément de puissance. Les risques dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des risques technologiques, ce sont des risques industriels, ce sont des risques génétiques, ce sont des risques qui témoignent que les instruments, les techniques que nous mettons en œuvre nous donnent une puissance infinie. Monsanto, la firme des OGM et de Terminator, Monsanto avait fait sa publicité en 1998, si je me souviens bien, sur le thème que grâce aux semences génétiquement modifiées, on allait supprimer la faim dans le monde. Eh bien, je pense que tout le monde a lu ça, non pas comme une chance, mais comme l'expression que ces gens-là étaient trop puissants. Celui qui prétend aujourd'hui pouvoir faire disparaître la faim dans le monde se prend sans doute pour Dieu. Et il est donc trop puissant. Et nous avons le sentiment qu'à travers le risque, ce qui se manifeste, c'est une sorte de surpuissance, c'est un excès de puissance de la part d'un certain nombre d'acteurs scientifiques, technologiques ou industriels. La deuxième dimension, indépendamment, et je crois qu'il faut distinguer de la puissance, c'est la dimension du pouvoir. C'est que cette puissance est mise en œuvre à travers, ou est mise en œuvre à travers des techniques, à travers un commerce qui s'exprime par une très profonde inégalité entre celui qui a le pouvoir de mettre en œuvre la puissance en question, le laboratoire pharmaceutique, le programme nucléaire, et celui qui consomme, celui qui est au bout de la chaîne. À la fois, il y a la mise en œuvre d'une puissance considérable, mais cette puissance s'exerce à travers des rapports extraordinairement asymétriques. La technologie moderne rend inégaux entre celui qui a la maîtrise et celui qui est soumis à cette maîtrise, il y a le sentiment d'une très profonde asymétrie. De telle sorte que, je pense que c'est là, c'est un des points qui sont au centre des problèmes contemporains autour du risque et de la responsabilité, c'est que notre tendance consiste à dire que celui qui a le pouvoir de mettre en œuvre une puissance, un certain rapport de puissance, dans une situation d'asymétrie, doit être, est responsable. C'est le pouvoir qui rend responsable. Je ne suis pas sûr que ça soit le risque. D'où ce qu'on imagine pour modifier cette situation de responsabilité,
il faudrait faire que celui qui est dans la situation dominée soit remis à égalité avec celui qui le domine, c'est-à-dire soit suffisamment informé. Eh bien, je crois que c'est un énorme problème aujourd'hui, cette question de l'information sur le risque, qu'on trouve extraordinairement développé en particulier en matière médicale, autour du problème du consentement éclairé, autour du problème de la disposition du dossier médical. Je vois que c'est une question ouverte de savoir si on peut imaginer que dans notre société, par des mécanismes d'information, par des mécanismes de communication, on puisse réduire l'asymétrie liée à l'usage des technologies qui nous caractérisent. Je crois que précisément ce que nous ressentons à travers la notion de précaution, c'est que celui qui a le pouvoir de mettre en œuvre une puissance technologique n'en a pas la maîtrise. Ce que nous redoutons à travers la précaution, c'est l'excès de la puissance sur le pouvoir. Et ce que nous cherchons à réduire avec peut-être la notion de précaution, c'est précisément cet excès de la puissance sur le pouvoir. Alors, cette question de la précaution, précisément, vise à repenser la responsabilité, vise à repenser l'exercice du pouvoir dans notre société. Ou plus exactement, ce qu'il y a au centre de la précaution, c'est cette distinction, c'est cette articulation que Foucault avait pointée comme caractéristique des formes politiques, à la fois une dimension du savoir, le problème de la précaution, c'est qu'elle appelle incessamment de nouveaux savoirs sur le risque. Et un des paradoxes de l'application du principe de précaution, c'est qu'il multiplie les risques. Plus on a des soupçons, plus on doit rechercher s'il y a des risques, et plus on recherche s'il y a des risques, plus on fait apparaître de risques. Il y a une sorte de dialectique du risque qui fait que quand il arrive quelque part, lorsqu'il entre quelque part, eh bien, il s'infinitise indéfiniment. Et d'où le problème de savoir comment arrêter cette prolifération. À la fois, le savoir est fait pour l'engendrer, et nous sommes dans des dispositifs scientifiques d'expertise qui multiplient les risques, mais on demande en même temps à ces mêmes dispositifs de limiter ce qu'ils engendrent. Donc, il y a au centre de cette société du risque un problème extrêmement difficile qui est lié à l'expertise, qui est lié à la constitution du savoir sur le risque, constitution du savoir sur le risque, alors que le risque est l'enjeu même de savoir divergent, de savoir conflictuel, qui peuvent être celui des scientifiques, mais qui peuvent être celui des scientifiques, face à d'autres types, d'autres catégories de la population qui ont d'autres perceptions du risque. Et il ne faut jamais oublier que le risque n'existe pas. Le risque, c'est rendre actuel l'inactuel. Vous pouvez rendre scientifique, vous pouvez rendre actuel un risque par la science, par la mesure, mais vous pouvez parfaitement le rendre actuel par la peur. Vous pouvez parfaitement le rendre actuel simplement en l'énonçant, simplement en le formulant. Comment maîtriser cette prolifération naturelle du risque entre la science et le fantasme, entre la science et la passion, entre la science et le sentiment. La deuxième dimension d'un régime, d'un ordre politique, c'est la dimension du pouvoir. La première, c'est celle du savoir, la seconde, celle du pouvoir, la seconde, c'est celle de la décision. Et comme on sait, le régime de précaution introduit une distinction entre savoir et pouvoir et redonne au pouvoir la dimension définitive de la souveraineté. Et le problème qui nous est posé, c'est de définir, c'est de savoir quelles sont les institutions qui sont capables de faire que la prise d'un risque ne soit plus la prise, ne soit plus une prise individuelle, mais devienne une prise collective. Les problèmes qui sont posés aujourd'hui en matière de décision sur les risques, en matière de décision de précaution, c'est le problème de la démocratie du risque. Il est très caractéristique que si le Parlement, le lieu de la souveraineté, fait des lois pour définir qui, dans l'administration, a le pouvoir d'interdire ou de permettre, ce n'est pas le Parlement qui se saisit lui-même de l'autorisation ou de l'interdiction. Je crois que c'est une des grandes questions du XXIe siècle ou de la société du risque, de savoir si la prise d'un risque, pourquoi la prise du risque, en particulier des risques de précaution, n'est pas, ne peut pas être prise par l'institution en charge de la souveraineté. Bien, je crois que j'ai atteint le délai. Peut-être conclure sur trois points. Vous voyez bien que la société du risque, c'est une société en crise. La société du risque, c'est une société qui fait de la crise son actualité. Alors, il y a plusieurs grands aspects de cette crise. La première, c'est la crise de notre rapport à la science. La première, c'est le qu'est-ce valeur nous attribuons, nous pouvons attribuer à la science, dans la mesure où, dans cette société, la science n'a plus une valeur en elle-même. Et c'est très important, parce que dans l'histoire de la République, on ne peut pas imaginer l'histoire de la République, en tout cas française, indépendamment de Condorcet, c'est-à-dire indépendamment de l'idée que la République est essentiellement fondée sur une base d'une reconnaissance, d'une confiance dans la science. C'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème, c'est un problème de dignité. Cette société du risque, c'est une société essentiellement, fondamentalement asymétrique. C'est une société, non pas d'inégalité de richesse, mais c'est une société d'inégalité face au risque. C'est une société où, à travers le risque, s'exprime un rapport social asymétrique. Et la question est de savoir si, comment faire, est-ce qu'il est possible que cette société redevienne une société contractuelle? Est-ce qu'il est possible qu'une société du risque, avec les asymétries qui la composent, se repense dans le cadre d'un contrat, se repense donc dans le cadre d'une égalité? Est-ce que nous n'entrons pas avec les sociétés du risque dans une société fondamentalement marquée par la gestion non plus de l'égalité, mais des inégalités? Le troisième problème, c'est le problème de l'augmentation des responsabilités. Car plus les risques sont déployés, plus les responsabilités augmentent. Je vous le disais tout à l'heure, risque signifie responsabilité. Alors, bien sûr, ça va bien lorsqu'il s'agit d'attaquer Coca-Cola ou Monsanto. Mais aujourd'hui, on vous explique que fumer, c'est risqué. On vous explique que boire, c'est risqué. Que faire ? Et demain, on vous expliquera, à travers, si jamais c'est vrai, à travers la disposition de tests génétiques, quels sont vos risques, quelles sont vos chances, quels sont vos avantages, quelles sont vos opportunités. Et la question est de savoir, qu'est-ce qu'on va faire dans cette société du risque de la responsabilité que l'on crée. Est-ce que cette responsabilité n'est pas susceptible de dégénérer en discrimination? Est-ce qu'on ne va pas considérer que celui qui n'est pas capable de gérer son risque correctement, eh bien celui-là ne mérite pas les mêmes protections que les autres? Donc cette société du risque est à la fois une société de la responsabilité, mais c'est aussi une société où la responsabilité peut devenir extrêmement dure à supporter. Enfin, c'est une société qui repense l'égalité. C'est une société qui repense la justice et où la justice ne se pense plus seulement comme une répartition équitable ou égale des richesses. Ça, c'était la société industrielle qui réfléchissait dans cette catégorie-là. Mais c'est une société qui va penser que l'injustice fondamentale, c'est l'injustice, c'est l'inégalité face au risque. D'où le thème fondamental de cette société, de l'égalité des chances. Et le problème qui est posé, c'est le fameux problème de l'égalité face à l'équité, c'est que face au risque, nous ne sommes pas égaux selon nos situations, selon notre histoire. Et que cette inégalité, elle suppose sans doute des traitements inégaux, des traitements qui passent non pas par des règles, abstraites, mais par des dispositifs très différenciés pour faire en sorte que les chances s'égalisent. Eh bien, voilà, je pense, un certain nombre des problèmes qui sont ceux de cette société du risque, peut-être ouverte en 1986, mais dont on risque au sein de laquelle on risque de vivre un certain nombre d'années. Oui, je vous en prie.
J'ai deux questions. Je ne sais pas si elles sont pertinentes, mais je me risque.
C'est bien.
Les plans de prévention de risque, les PPR, sont un enjeu d'aménagement du territoire. Croyez-vous que les citoyens sont prêts à investir et à s'y investir? Et ma deuxième question, il y a un député qui a proposé la création d'une agence qui regrouperait les agences de sécurité alimentaire et les agences de sécurité environnementale. Qu'est-ce que vous en pensez?
La première, je réponds.
Allez-y, bien sûr. Oui.
Alors, sur les plans de prévention des risques, vous me demandez si les citoyens vont collaborer. J'en suis pas sûr. Le problème est de savoir si. Vous avez deux types de citoyens face au plan de prévention des risques. Vous avez le citoyen qui va acheter quelque chose, qui va acheter une propriété. Lui, il est tout à fait prêt à collaborer au plan de prévention des risques. Celui qui a déjà quelque chose et qui est menacé par un plan de prévention des risques, il n'a pas tout à fait la même attitude. Pourquoi? Eh bien, parce que selon la présence ou l'absence d'un plan de prévention des risques, qu'est-ce que fait le plan de prévention des risques? Là, c'est un exemple parfait du risque comme mesure de la valeur. C'est que selon que vous ayez ou non un plan de prévention des risques, votre propriété n'a absolument pas la même valeur. Tant qu'une propriété a des effets des plans de prévention des risques, c'est qu'une propriété pourra être, par exemple, plus ou moins assurable. Si votre propriété n'est plus assurable, eh bien, elle n'a plus de valeur. Sur le marché, pour avoir une valeur sentimentale considérable, et pour trouver quelqu'un qui l'achète au prix où vous l'avez vous-même acheté, ça risque d'être différent. Et donc, je pense qu'il y a un problème très difficile autour de ces problèmes de plan de prévention des risques, c'est qu'ils ne sont pas simplement des instruments de mesure de risque, c'est que ce sont des instruments de fixation des valeurs. Ce que vous faites à travers ces plans, c'est un plan des valeurs du territoire, des valeurs différenciées du territoire français. Et ceci change la nature même du territoire. Alors, faut-il unifier les agences? Là, c'est un débat. Moi, les parlementaires qui sont à l'origine de ce grand programme d'agence, qui est un programme que je trouve excellent, les agences, ce sont les institutions que le gouvernement crée, les institutions publiques, pour évaluer, surveiller les risques qui sont liés à telle ou telle activité. Alors, les parlementaires qui ont regardé ça ont été aux États-Unis et ont enquêté auprès des institutions américaines, où il y a une agence fondamentale qui regroupe le médicament et l'aliment, et ils ont considéré que ce n'était pas une bonne chose. D'où l'idée de faire plusieurs agences dédiées à des types de risques spécifiques. On verra à l'usage, mais il est clair que si l'agence de sécurité des aliments laisse passer une affaire de listériose, eh bien, il y a des chances que l'indépendance, que son indépendance soit contestée, et, ou inversement, si c'est l'agence des médicaments, l'agence de santé, ça risque de modifier la donne. Mais pour le moment, c'est ainsi, donc on ne crée pas un espèce de gros, un organisme gigantesque. Déjà, chacune de ces agences est déjà elle-même très importante, parce qu'elle a des satellites qui sont dispersés à travers tout le territoire. Et, bon, écoutez, pour le moment, je crois qu'il n'y a pas de critique à faire.
Une question là-bas. Allez, levez-vous.
Oui.
Là-haut. Allez-y. Oui, allez-y.
Vous avez dit que lorsqu'un risque était avéré, il devenait un sinistre, et puis un petit peu plus loin, vous aviez évoqué la retraite, et on a bien compris que la probabilité de vivre autant au-dessus de 65 ans étant mesurée statistiquement en termes d'espérance de vie, donc l'association était rapidement de fait. La retraite serait-elle, en tout cas l'expérience de la retraite, serait-elle considérée comme un sinistre? Par ailleurs, la première partie de votre exposé permettait de penser autrement le risque retraite, au-delà du risque assurantiel. On l'a peut-être trop pensé en termes assurantiels. Mais si on pensait la retraite comme un risque, peut-être au niveau d'une société, de penser, je pense à l'économiste Bernard Friot, de penser qu'il s'agit d'une autre manière d'organiser sa vie, en étant payé sur de la masse salariale, et Bernard Friot parle même de l'expérience collective du bonheur, qui n'est absolument pas diffusée dans les médias, et pour lequel on ne parle toujours de retraite que sous forme de risque-retraite, de risque de financement. Ne croyez-vous pas que le risque dont il s'agit pour la retraite, c'est justement de penser un mode de fonctionnement d'une société autrement et qui a plus à voir avec la première partie de votre exposé, un risque pensé dans le cadre d'une valeur, de principe de valeur. Et je crois que c'est sous cet angle-là que votre exposé est assez enrichissant, je dois dire, pour penser le risque autrement que sous forme assurantielle.
Je ne peux pas critiquer la beauté quand même du risque assurantiel. C'est quand même une belle affaire. C'est quand même une belle affaire intelligente. Alors, la retraite sinistre, non, ça ne veut pas dire que la retraite est un sinistre. Ça veut dire que la retraite n'est plus un risque. À partir du moment où vous avez la certitude que l'événement est donné, non pas réalisé, mais qu'il est donné, c'est-à-dire que ce n'est plus un risque. Donc ce n'est pas un sinistre, ce n'est plus un risque. Alors, en ce qui concerne le deuxième point, je partage volontiers votre avis. Je partage volontiers votre avis. C'est d'ailleurs un des enjeux des discussions actuelles autour de la retraite. C'est l'idée de dire qu'il faudrait distinguer entre le droit à avoir un revenu après sa période d'activité, mais que ce droit, on puisse l'exercer de façon extrêmement différente entre une personne et une autre. On peut très bien avoir quelqu'un qui ne souhaitent absolument pas arrêter de travailler, qui souhaitent pouvoir continuer, puisqu'on a on est en pleine forme, on a la chance de pouvoir être en pleine forme très longtemps, pouvoir continuer sous des formes, de temps partiel, etc., une activité. Un autre peut considérer au contraire que ce qu'il veut, c'est prendre sa retraite le plus tôt possible pour pouvoir faire toute autre chose. Et que donc il faut distinguer entre le droit, sa jouissance, la jouissance du droit, comme disent les juristes, et son exercice. Mais malgré tout, le problème restera de disposer d'un revenu suffisant. Donc vous ne pouvez pas, même pour obtenir cette retraite heureuse, il faut quand même qu'elle soit assurée financièrement. Mais il est certain qu'on peut gérer justement le risque, non plus donc dans cette certitude que tant de personnes vont avoir d'assurer un revenu pour tant de personnes à partir d'un certain âge. En même temps, on peut gérer d'un point de vue actuariel la manière dont chacun va pouvoir prendre ses droits d'une façon différente, de telle manière que l'équilibre de l'ensemble soit conservé. Oui, ça, je pense que c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire toucher à un certain nombre de principes sacro-saints du type la retraite à 60 ans. Ça veut dire qu'une notion comme celle-là est une notion qui n'a plus de sens. Par contre, ce qui a un sens, c'est d'avoir un droit pendant un certain temps, pendant un certain nombre d'années, à avoir un revenu de remplacement. Donc à ce moment-là, ça n'a plus de sens de parler de retraite. On a droit à un revenu de remplacement. Et d'ailleurs, l'idée qui a été développée par un juriste de Nantes pour la Commission européenne, Alain Supiot, c'était de dire qu'en fait, ce temps-là, une personne aujourd'hui devait pouvoir bénéficier de droits à son temps libre et qu'elle pourrait utiliser quand elle veut dans sa vie. C'est-à-dire que au lieu d'avoir à prendre 25 ans à 60 ans, bien, je peux avoir à prendre 25 ans depuis 20 ans. Et donc, prendre 5 ans à une certaine époque, pour pouvoir dire, je me suis engagé dans un métier, etc., mais pouvoir décider, mais moi, je vais apprendre un autre métier parce que j'ai envie de faire autre chose. Et pour ça, de refaire une formation et d'utiliser ce temps dont elle aura le droit sur l'ensemble de sa vie. Donc, c'est l'idée d'avoir des droits sur l'ensemble de sa vie dont on dispose et que l'on gère comme l'on souhaite.
Une dernière question, monsieur. Là.
J'ai deux remarques. Hein.
Oui, rapide, s'il vous plaît.
La première, c'est que vous faites la part trop belle, si vous voulez, à une activité autotélique qui serait le risque. Or, on ne peut pas découpler le risque de l'opportunité, de mon point de vue, sauf dans le cadre assurantiel et encore. Ça, c'est le premier point.
Je ne comprends pas bien votre question.
C'est-à-dire que le risque, l'acceptation du risque, est en général une contrepartie, si vous voulez, d'une opportunité. C'est-à-dire que quelqu'un considère qu'il a une opportunité
et
il y a une contrepartie, c'est le risque. Et on ne peut pas faire le découplage.
Oui, absolument.
Premier point, que vous ne faites pratiquement pas dans votre exposé. Deuxième point, vous parlez du principe de précaution. Bon, c'est une donnée qui est relativement moderne. Et en fait, elle résulte de quoi ? Elle résulte du fait qu'actuellement, sur le plan expertise scientifique, on est capable de faire des simulations. Et c'est cette capacité de calcul et de simulation qui a indirectement créé, si vous voulez, ce droit au principe de précaution. Voilà mes deux remarques.
Alors, en ce qui concerne la première remarque, je suis totalement d'accord avec vous. Effectivement, le risque, c'est le prix, c'est l'enjeu d'un choix. Dans une situation incertaine, où précisément on ne sait pas si on va gagner ou perdre. Et la perte, il y a une part de la perte possible. Prendre le risque, c'est effectivement choisir de courir la possibilité d'une perte pour obtenir quelque chose. Dans les exemples que j'ai donnés au début, malgré tout, il y avait bien un enjeu de ce type qui était la vie. En ce qui concerne le principe de précaution, je ne suis pas sûr que dans les faits, ça soit bien ça. Le principe de précaution, il apparaît dans la littérature allemande dans les années 70, à partir du moment où on a fait de l'écologie un programme politique. Le principe de précaution, il naît de l'introduction de préoccupations écologiques en politique. C'est-à-dire que le principe de précaution, il est apparu lorsque, pour régler le problème de l'environnement, on n'a plus fait confiance aux mécanismes juridiques de responsabilité. Jusqu'alors, on traitait les problèmes d'environnement à travers les mécanismes de responsabilité. C'est le problème des nuisances, c'était le problème de... On créait un dommage, on devait le réparer. Eh bien, le principe de précaution, il naît lorsqu'on dit ces mécanismes-là ne sont pas suffisants, ces mécanismes-là ne sont pas adéquats, et il faut donc développer des politiques spécifiques. Et ces politiques spécifiques qui vont dépasser les mécanismes juridiques traditionnels de responsabilité, c'est ce qui prend le nom de principe de précaution. Je pense.
François Hival, merci.